Chapitre 39. René Magritte. Écoute ton inconscient. Ce jour d'août, Mona avait 11 ans. Et pour chacun de ses anniversaires, le rituel était le même. À l'heure du goûter, son père décorait la boutique de Montreuil, y installait une grande table, cuisinait des cookies au chocolat dans lesquels il fichait les bougies. Il y avait 4 surprises, annoncèrent ses parents. Mona se mit à inspecter les lieux en avalant les gâteaux. En à peine quelques minutes, l'enfant en décela 3. 3 petits paquets. Un joli coffret avec un jeu de 52 cartes, une paire de boucles d'oreilles et une enveloppe avec 60 euros. Mona sautillait de joie. Mais après avoir longuement fouillé partout, elle abandonna sa quête du 4e cadeau. Camille, d'un geste rapide du menton, lui suggéra d'aller faire un tour dans l'arrière-boutique. Mona s'y précipita et se figea brusquement en songeant à sa grand-mère. Son esprit refit étrangement le lien entre le souvenir de celle-ci et celui des figurines Vertouni que Paul avait désormais totalement écoulées. Les images mentales de Colette Villemain et des petits personnages en plomb entrèrent en réseau dans sa tête. Heureusement, Mona eut à peine le temps de s'assombrir, car un bruit la fit vivement sursauter et balaya sa tristesse passagère.
« Papa, maman, j'ai entendu un truc bizarre. »
Et le truc bizarre retentit de nouveau, plus distinctement. Et encore une fois, le cœur de Mona se mit à battre fort. Elle approcha pas à pas. C'est bien ce qu'elle croyait. Dans un coin, allongé sur le flanc, un adorable petit épagnol jappait. Elle approcha la main qu'il mordilla. Elle caressa son pelage, le souffle coupé, bouleversé par la sensation de douceur qui frémissait sous sa paume. Mona plongea dans les yeux de l'animal. L'animal plongea dans les yeux de Mona. Il se lécha les babines et se dressa sur ses minuscules pattes avant. Le cadeau, c'était bien sûr cet être fragile, mais c'était encore autre chose, comprit-elle, quelque chose de difficilement qualifiable. C'était à travers cette immédiate affinité élective entre la bête et l'enfant, une prise de conscience, celle de la membrane du monde, le monde comme mise en commun, tissu du vivant.
« Tu t'appelles Cosmos ?»
lui dit Mona, ruisselante de larmes et haletante de bonheur. Et Cosmos aboya 2 fois. Henri refusait que sa petite fille vienne au musée avec son chiot dans un sac. Mona obtempéra et se fixa un défi. De retour chez elle après la visite, elle répéterait la leçon du jour à Cosmos. Henri trouvait l'idée si saugrenue qu'il y adhéra. Avec un brin d'ironie, il suggéra donc à Mona de prendre ou de trouver à chaque fois une photographie de l'œuvre pour la montrer au chien.
« Oui, ça me semble logique. »
approuvait-elle d'un air très sérieux. Elle annonça qu'elle collerait la reproduction sur les jolies cartes à jouer plastifiées qu'elle avait reçues pour son anniversaire. Elle aurait ainsi un support rigide.
« Cosmos sera content, » conclut-elle.
Secrètement émerveillé, Henri se souvint de l'extravagant poète et plasticien Marcel Brotzers, qui en 1970 avait enregistré un entretien avec un chat sur l'art contemporain. Brotzers était belge, comme l'immense peintre surréaliste René Magritte. C'était l'heure de le découvrir. Une paire de souliers semi-montants, posés de manière quasi parallèle, dominait l'espace. Ils étaient représentés en plongée et de 3/4, avec le contrefort à droite de la composition et les orteils à gauche. Les orteils, oui, et non le bout des chaussures, car celles-ci se transformaient progressivement en pieds. Plus exactement, le cuir brun peint d'une manière fine et minutieuse mutait à peu près au niveau de l'os naviculaire en une peau blanc et rosée parcourue d'un réseau veineux plutôt saillant. Grâce à un impeccable dégradé, la transition de l'état d'objet à l'état de fragment humain s'avérait parfaitement naturelle et convaincante. On pouvait même s'attacher à des détails qui rendaient crédible aussi bien la bottine que l'anatomie. Des lacets droits qui montaient sur 4 rangées et qui pendaient, défaits, en haut des quartiers. Des ongles un peu longs, nacrés au niveau de la kératine et légèrement sales à leur extrémité. L'aspect de la chair suggérait une présence humaine, mais fractionnée et spectrale. Le tout occupait un cadrage serré et passablement glauque, dominé par des tonalités charbonneuses et sourdes. Sur le tiers inférieur de la toile, de format vertical, il y avait une terre marron et caillouteuse. Sur les deux autres tiers, partant du sol, s'enchaînaient à l'horizontale quatre planches d'une palissade en bois beige, marquées de quelques nœuds épars. Mona passa un peu plus de 40 minutes devant l'œuvre avant que ne s'engage la conversation. « Vois-tu, commença Henri, avec Magritte, nous revenons en apparence à quelque chose d'un peu plus classique que lors de nos dernières visites. C'est une peinture à l'huile figurative, faite sur toile.
Classique, Dadé? C'est bizarre que tu penses ça. Moi, je trouve que l'œuvre, elle fiche la trouille. Tu sais, il y a des copains à l'école et même Lily qui aiment beaucoup les films de morts-vivants où on sursaute tout le temps. Moi, Dadé, je déteste ça. Et ton tableau, aujourd'hui, avec ses pieds qui sont coupés et qui ressemblent à des chaussures, et puis ses couleurs qui sont ternes, il me fait penser à ces films où je me cache les yeux. Pardon de te le dire, Dadé.
Cesse de demander pardon quand tu as l'impression que tes sentiments ne se conforment pas à ce qu'on attend de toi. Tu es libre de ressentir ce que tu veux. Et je vais te dire mieux. Ton malaise devant l'atmosphère indécise et lugubre de Magritte, c'est la preuve que tu sais regarder cette peinture et que tu y trouves ce que l'artiste y a placé.
Est-ce que tu veux dire que Magritte veut nous effrayer? Et pourquoi pas?
Rappelle-toi un élément fondamental. Quand on aborde naïvement l'histoire de l'art, on croit que la création ne tend qu'à élaborer des belles choses. Mais c'est faux. La peinture, la sculpture, la photographie, la littérature, la musique, ou encore le théâtre, remuent les strates les plus enfouies de ce que nous sommes, et les exacerbent, y compris nos angoisses. Tu parlais du cinéma. Le mouvement auquel appartient René Magritte, nommé le surréalisme, est composé d'artistes qui sont nés en même temps que les premiers films. Et ces premiers films sont bien souvent d'un style fantastique. Les surréalistes ne cessaient d'ailleurs de fréquenter les salles obscures. C'était quasi une drogue pour eux. Eh bien, l'un de leurs longs métrages préférés était justement l'histoire d'un vampire démoniaque inspiré de Dracula. Il s'agit de Nosferatu de Friedrich Murnau, sorti en 1922.
« Je pense aux fantômes, moi, ici. »«
Explique-moi donc. »«
Il y a ce bout de corps, moitié pied, moitié bottine, d'abord. » Il y a ce titre ensuite. Le tableau s'appelle « Le modèle rouge ». D'un côté, c'est en décalage avec ce qu'on voit. Le rouge est complètement absent. Il y a seulement des teintes froides. Et puis pourquoi est-ce qu'on parle de modèle? Les chaussures qui se transforment en peau humaine sont vides. Mais quand on a le titre dans la tête, c'est comme si on devait deviner qu'il y a quand même quelque chose. Alors j'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui plane sur tout ça.
Henri, pour la rassurer, passa ses mains dans l'épaisse crinière de Mona et la lui ébouriffa avec insistance.
« Je vais te faire pareil !» lui lança l'enfant décoiffé.
Le vieil homme s'accroupit et se laissa chahuter les cheveux. Il eut l'air tout à fait burlesque avec une mèche soudainement relevée sur le front. Mona pouffa dans ses mains. « Vois-tu, c'est par le rire qu'on chasse les fantômes !» lui souffla alors son grand-père. Cette curieuse méthode, qui collait bien peu à l'aspect parfois si imposant et grave d'Henri, lui venait d'un film d'animation japonais, Mon voisin Totoro, une des merveilles de Miyazaki. Au début de l'histoire, dans une grande maison longtemps inhabitée, un père apprend à ses deux fillettes à congédier la prolifération des spectres en s'esclaffant, même artificiellement. Et cela fonctionne. Les ombres se dissipent. Les fantômes sont partout dans l'enfance, déclara Henri. Ils peuvent se nicher dans le recoin d'une cave, dans le bosquet d'un chemin mal éclairé, et même dans un objet aussi banal qu'un dessus de lit ou qu'un chapeau, voire dans le motif d'un papier peint ou dans la bonde d'une baignoire. Fantôme est de la même racine étymologique que fantasme, et au fil de l'âge et de la construction d'un imaginaire d'adulte, le second terme recouvre progressivement le premier. Henri savait très bien que cette dispersion constituait un soulagement et permettait l'autonomie des êtres, ne serait-ce que pour dormir seul chez soi, par exemple. Mais il n'ignorait pas non plus que cette dispersion sonnait l'heure d'un certain désenchantement, car la hantise et l'effroi devant le surnaturel procurent des émotions extraordinairement fortes. « Cette peinture, reprit-il, n'est pas tout à fait un cauchemar. Elle est plutôt un mauvais rêve qui suscite le trouble. Que dirais-tu à ce sujet du sol et de la palissade à l'arrière-plan ? Je dirais que les petits cailloux par terre font l'effet d'une peau couverte de pustules. » Elle eut une moue dégoûtée. « Et puis dans les planches, les nœuds du bois sont un peu comme des yeux. « Oh, Dadé !» s'emballa-t-elle une main sur le front. « Ça me rappelle quand j'ai cru voir un gros œil visqueux dans de la viande. C'était au Louvre devant Goya. »
« Je m'en souviens très bien. » Goya eut d'ailleurs une influence énorme sur les peintres surréalistes. À ce propos, ces derniers étaient, à l'image de leur vénérable aîné, d'excellents techniciens. Ils pratiquaient la peinture à l'huile à la façon des maîtres anciens. Regarde bien cette toile. Les proportions anatomiques y sont parfaites. Les veines gonflent et palpitent jusqu'aux orteils. Et c'est grâce à cela que l'inquiétante étrangeté devient possible. Il y a suffisamment d'authenticité et de vraisemblance pour qu'une bizarrerie contamine le reste. Dès lors, même le parterre bulbeux et les planches noueuses finissent par secouer notre imagination, ou plus précisément, par ébranler notre inconscient.
« Ah, le revoilà encore, celui-là »
« Comme tu dis, Mona. » Les surréalistes considèrent que l'inconscient constitue le fonctionnement réel de la pensée. À l'inverse, tout ce qui est rationnel et raisonnable, tout ce qui est convenable et moral, c'est-à-dire tout ce qui se situe au niveau de l'inconscience, ne les intéresse pas. Pour les surréalistes, la nappe de l'esprit dans laquelle on se fond au quotidien doit être recouverte par une nappe plus profonde.
Celle qu'on visite dans nos rêves.
L'interrompit Mona, qui se souvenait de la leçon des rosiers sous les arbres de Klimt. L'image est tellement incongrue qu'elle a aussi sa part de sarcasme. Magritte a d'ailleurs commenté ce tableau en disant qu'il faisait allusion au processus de fabrication des souliers en cuir. Ceux-ci sont confectionnés avec de la peau tannée. Il y a ici un clin d'œil macabre à cette pratique. Ce modèle rouge est plein d'humour noir.
Pour moi, dans un rêve, tout est plutôt net, et les images me font beaucoup d'impressions, mais en même temps, c'est comme si elles m'échappaient parce qu'elles sont comme à moitié finies. Là, avec Magritte, je sens qu'il voit les rêves de manière précise, lui aussi, comme la réalité.
Le cinéaste Alfred Hitchcock ne disait pas autre chose. Il jugeait ridicule de représenter les rêves au cinéma avec un tremblé flou. Il fit dessiner à Salvador Dali des décors nets, comme tu dis, pour son film « La maison du docteur Edwards ». Cette confusion avec la réalité, c'était l'ambition ultime des surréalistes. Ils auraient voulu que toi et moi, tandis que nous parlons, marchons, mangeons ou respirons, tandis que nous accomplissons les tâches les plus quotidiennes, nous nous trouvions sans cesse confrontés aux surprises et à l'originalité des rêves. Ils auraient souhaité que le bouillonnement et les éruptions de l'inconscient débordent en permanence de la conscience. Par ce débordement, ils auraient inventé un monde complètement nouveau, un monde soumis en permanence à l'hallucination poétique. Nous nous serions promenés dans la vie comme nous cheminons dans les songes. Mona indiqua du doigt, sans essayer d'articuler davantage sa pensée, un double détail. Au niveau de chaque soulier, il y avait ces quelques centimètres de passage entre le brun du cuir et le rosé de la peau, entre l'inerte et le vivant. Il semblait s'y jouer le basculement de la nuit au jour, ou, si l'on regardait plutôt le motif du bas vers le haut, du jour à la nuit. La prodigieuse force de la toile était concentrée là, et d'instinct, elle l'avait sentie. Magritte avait peint la jointure du sommet des pieds et du bas des jambes comme un entrelac d'ombre et de lumière. Cette zone racontait ainsi, de manière métaphorique, l'aller-retour entre deux états opposés mais continus du cerveau, rêveur et vigile, vigile et rêveur. « Écoute ton inconscient, » dit Henri. « Épouse, s'allant au fourchat, ton inconscient. »«
Écoute ou épouse, Dadé ?»
J'ai fait un lapsus, pardonne-moi.
s'amusa-t-il sans répondre tout à fait. Il était l'heure de rentrer. Mona pensait à son chiot. Il allait donc falloir lui parler de surréalisme, d'hallucination et d'huile sur toile. Quel programme! Sitôt à la maison, elle convoqua Cosmos dans sa chambre. L'épagnole s'assit face à elle, tout penaud. Elle lui montra l'œuvre. Séchina alla lui expliquer doctement pendant quelques minutes. Le chien demeurait sage. Il n'empêche qu'il n'avait qu'une idée en tête, faire ses crocs naissants sur une paire de bottines.